Chapitre 4. Hélène ne songeait qu'avec angoisse au jour fatal où Isidore reparaîtrait dans Uclas. Oui, Isidore était brave, animée des meilleures intentions. Mais, que voulez-vous, elle ne parvenait pas à l'aimer. Il était laid, noir comme une taupe, hérissé de barbe et de cheveux, avec une voix de pigrièche, un gros nez rond, des yeux remuants de myope derrière le lorgnon. Elle ne l'aimait pas, et, frissonnant tout le jour de la crainte de le revoir, elle montait souvent à sa chambre afin de s'abandonner, sans témoin, à sa peine. Cet après-midi, que la gaieté du soleil rayonnait jusque dans les ruelles, tandis que les pigeons ramiers venaient d'un battement d'ailes et fleuraient sa fenêtre au blanc rideau, Hélène, pourtant jalouse des splendeurs de son ciel, n'avait plus le cœur d'en jouir. Le fracas de la maison en construction, qui devait être la sienne, lui martelait la tête. Depuis un moment, elle avait nettoyé sa chambre et elle restait immobile, perdue dans la tristesse d'une songerie, lorsque, doucement, la porte tourna sur ses gonds. Elle tressaillit d'étonnement, confuse d'être surprise en sa détresse. C'était sa mère qui s'alarmait enfin et qui venait, à l'insu du père Charmasson, consoler Hélène, l'exhorter à l'espérance. Elle avança d'un air presque timide et demanda « Qu'as-tu, Hélène? Pourquoi t'isoles-tu ainsi dans ta chambre ?»«
Pour rien, maman. C'est que je me plais beaucoup chez moi. »
« Tu es si rêveuse, si maussade, depuis trop longtemps. Qu'as-tu ?» Hélène la regarda, non sans hésitation, et murmura « Ai-je besoin de parler ?» Elle enlaça le cou épais de sa mère et la baisa aux joues que mouillaient des gouttes de sueur. « Une fiancée comme toi devrait être heureuse, et je sens que tu souffres en secret. Est-ce à propos de ton mariage ?» Hélène fit signe que oui. « Mais tu as tort !» se récria Madame Charmasson. « On ne t'oblige pas. Nous ne voulons pas que tu te sacrifies. Mais non. Si tu n'acceptes pas de bon gré ce mariage, dis-le-moi. D'abord, qu'est-ce que tu reproches à Isidore ?»«
Oh, rien. Je ne peux pas expliquer la chose. D'un côté, j'ai peur qu'il ne dévore sottement la fortune de sa mère. » D'un autre côté, je pense que, si je parviens à dominer son caractère, je pourrais faire ici beaucoup de bien. C'est que vous n'êtes plus jeune. Tu vois, j'avais deviné. Eh bien, moi, je n'accepte pas que tu te sacrifies. Je le dirai à ton père.
Hélène, à ces mots, se redressa.
Non, je ne veux pas. Je te démentirai. Non, non.
Soit, ne t'emporte pas, Hélène. « D'ailleurs, la chose n'est pas faite. »«
Elle se fera. Après tout, ce n'est pas un mauvais mariage. Il faut simplement que je m'habitue à cette idée. »
Maintenant, c'est Hélène qui raisonnait sa mère et qui la consolait. Mais, au bas de l'escalier, M. Charmasson, qui ne pouvait longtemps se priver de la présence de sa femme dans la cuisine, appela
« Hé, là-haut, que faites-vous ?»
Hélène baisa les mains de sa mère et l'accompagna jusqu'à l'escalier.
« Descends vite et je te supplie de ne rien dire, au moins. Tout s'arrange. »
Elle s'accouda sur l'appui de la fenêtre pour observer le va-et-vient de quelques passants dans la rue de Castelnau. La marchande d'oranges, la marchande de pétrole, puis le précon en habit de police qui joua de son clairon de cavalerie, et qui, de sa forte voix de commandement, annonça que le banquier Gauzy avait perdu une giletière d'or et que récompense était promise à qui la rapporterait à monsieur le commissaire. La paix était à peine retombée sur le carreau de la halle que les balayeurs, épars autour d'un tombereau boueux, nettoyaient de ses détritus de légumes, de viande et de fromage, que soudain déboucha de la rue des Fours un petit homme pressé qu'Hélène ne reconnut pas d'abord. C'était Isidore Lagrifoule qui revenait de son voyage à l'improviste. Que lui était-il donc arrivé? Elle allait se reculer dans sa chambre afin de se dérober à quelques-unes de ses manifestations ridicules lorsque, ayant sauté le ruisseau, il leva la tête. Enchanté de la trouver à sa fenêtre, il lui adressa un grand salut.
« À bientôt, Hélène, à bientôt !»
Et il éclata de rire. Elle eut la force de lui rendre son salut en souriant. Mais il était reparti déjà pour la rue Saint-Jean, sans même jeter un coup d'œil à son magasin en construction. À la boulangerie, dont la porte restait toujours ouverte, maman la Griffoul faisait un somme sur sa chaise basse, le menton sur la poitrine. Elle se réveilla en sursaut.
« Tais, c'est toi, Isidore. Pourquoi n'as-tu pas annoncé ton retour ?»«
J'ai voulu vous faire une surprise.
Alors, ça va ?»«
Oui, bien. On va de la gare porter ma malle. J'ai vu tous mes fournisseurs, tous charmants. »«
Pardi !»«
À la fin du mois, je commencerai à recevoir mes marchandises. »
Et tu seras seule ?
Forcément, puisque je ne serai pas encore mariée. Peut-être embaucherai-je un commis.
Prends garde, l'argent s'en va vite.
Il viendra encore plus vite au magasin.
Tu as vu les charmaçons en passant ?
J'ai salué Hélène qui était à sa fenêtre. Je lui ai fait comprendre que j'irai chez eux après souper et nous fixerons la date du mariage.
Tu feras bien. « Car, je n'osais pas te le dire, on jase partout que le mariage n'aboutira jamais. »«
On me défie, eh bien, nous verrons. »
Il monta jusqu'à sa chambre, rafraîchir un peu sa toilette, vérifier quelques ouvrages de sa peinture. Puis, il s'en alla au cercle serrer la main à quelques amis dont la société lui manquait depuis longtemps.
« Au moins, ne bois pas !»«
Non, mère, je ne bois plus. » Il mentait du moins un peu. Toutefois, il ne rencontra aucun de ses amis et, dans son isolement, il garda la plus décente sobriété. Après souper, ce fut d'un pas allègre qu'il se rendit chez les charmaçons. Les chauves-souris volaient dans la rue, à la hauteur des premiers étages, où, d'un coup d'ailes frémissantes, elles effleuraient les réverbères. Les boutiques étaient barricadées. La Griffoul frappa du poing à la porte des charmaçons, la première dans la ruelle. Hélène lui ouvrit avec empressement et, gentille, rouge de son élan de bonne grâce encore plus que de pudeur, elle se laissa embrasser. Sous la discrète lampe de famille, une lampe à gaz vieille de 40 ans, autour de la table débarrassée de son couvert, les charmaçons se tinrent attentifs à la parole de la Griffoul qui s'en trouva flattée.
« Oui, dit-il, j'ai fait un excellent voyage. À présent, il s'agit de fixer le jour du mariage. »
« Nous sommes en juin, répondit M. Charmaçon. Ce sera en août. Il nous faut bien un mois et demi pour nous préparer.
C'est un peu long.
Le temps passe si vite, Pécaïre, mais je ne suis vraiment tranquille que pendant les vacances.
En outre, tu sais qu'Hélène passe chaque année 5 ou 6 semaines à Cornu, dans la montagne, chez Galissard, sa mère nourrice.
Je n'en savais rien, mais devant d'aussi bonnes raisons, je m'incline. »
Hélène observait, avec une tendresse qu'inspirait la gratitude, Isidore, qui paraissait soumis, généreux. Il lui demanda
« Quel jour désirez-vous, Hélène ?»«
Eh bien, le 5 août, qui est un jeudi. » »«
Entendu pour le 5 août. »
Monsieur Charmaçon serra les poings sur ses genoux, se pencha vers Isidore et, le regardant droit dans les yeux, lui déclara
« Tu sais ce qu'on dit ?»«
Non, quoi ?»
On dit que tu as contracté à Paris de mauvaises habitudes de cabaret.
Que les gens sont mauvais.
Pardi, je vais au café de temps à autre comme tout le monde. Ça ne m'est pas défendu, je suppose.
Il lançait un violent regard d'indignation à Hélène qui baissa le front, à la fois contente et gênée de la franchise de son père.
Nous ne croyons rien de ces médisances, Isidore. Autrement, nous ne te donnerions pas Hélène.
Mais il y a encore quelque chose et de très sérieux.
« Quoi ?
Excuse-moi si je suis indiscret, mais il faut, ne serait-ce que dans ton intérêt, que je te renseigne. Ta mère, n'est-ce pas, a un dépôt chez le banquier Gauzy ?»«
Oui, je le crois. »«
Eh bien, on l'ignore encore dans le public. Un employé a dit, sous le sceau du secret, un mot fort inquiétant à l'un de mes amis qui me l'a répété aujourd'hui, la crise atteindrait la banque. »
« C'est impossible !» protesta la Griffoul, pourtant étourdie par la frayeur que l'échafaudage de ses projets fut soudain menacé.
« Impossible, dis-tu, il ne faut jamais dire ça d'une banque. En tout cas, préviens ta mère. »«
Fichtre, oui, quoique je sois sûr de M. Gauzy, qui est un honnête homme. »«
Ce n'est pas pour ton argent que nous te donnons, Hélène. Tout de même, nous ne voudrions pas qu'elle connût auprès de toi l'adversité. »«
Non, je me reprocherai toujours ce malheur. »
Hélène, si vous avez la moindre crainte, ne vous mariez pas avec moi.
Je n'ai pas deux paroles, répondit Hélène. Seulement, prenez vos précautions.
C'est juste, dès demain. Il y eut un silence imprégné de tristesse. Pourtant, on prépara les dominos et M. Charmasson s'efforça par des plaisanteries naïves d'exciter le rire. Mais Isidore, malgré lui, revenait sans cesse à la question de la banque. « Personne d'autre, demanda-t-il, ne vous a parlé de Gauzy ?»«
Non, répondit M. Charmasson. Dans le public, on ne se doute de rien. Du moins, mon ami me l'a assuré. »
Hélène veillait aux petits soins de son fiancé, lui versant une seconde tasse de café, lui offrant le sucrier, lui présentant une allumette pour allumer son cigare. Quand il posait sur sa main si pure et fraîche la sienne un peu velue, elle ne se retirait pas. Néanmoins, il prit congé plus tôt qu'à l'ordinaire. C'est qu'il lui tardait d'être seul, de songer tranquillement à ses affaires. En traversant le carreau de la halle, il eut l'idée d'aller consulter ses amis, ceux qui possédaient quelques biens. Mais par circonspection, pour ne pas provoquer l'élan des médisances, il rentra chez lui. Le lendemain, dès qu'il descendit de sa chambre, il informa sa mère de la sinistre nouvelle. Maman Lagrifoule devint blême, bredouilla.
« Que dis-tu, Zidore ?»«
L'avertissement nous vient de papa Charmasson, donc c'est très sérieux. Il est bon de tout prévoir. »«
J'irai ce matin même à la banque. »«
Gare, ne créons pas la panique. »
« Oh, ma foi, tant pis pour les autres. C'est que je tiens à mon argent que j'ai si péniblement amassé. Aussi, Isidore, depuis quelques jours, M. Gauzy, quand il passe devant la maison, n'est plus à son habitude glorieux rieur. »
Ce ne fut qu'avec peine qu'Isidore apaisa l'affolement de sa mère, bien qu'il tremblât lui-même. Ils décidèrent de ne demander à la banque que 20 000 francs et seulement dans quelques jours. Puis, une semaine après, on retournerait à la banque. Ainsi, petit à petit, il reprendrait tous les fonds en dépôt.